Ambient Memory sur Radio Graphite, l'émission dédiée aux musiques ambiantes. Philippe Hall vous transporte vers un nouveau voyage. Ambient Memory, l'interview.
Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans cette émission d'Ambient Memory, l'interview. Ce soir, nous partons au Canada, plus particulièrement du côté de Montréal, pour découvrir un duo de cosmonautes un peu extraterrestres, mi-homme, mi-mouton électrique, qui circule dans un vaisseau spatial alimenté par de la laine fraîche. Le duo Valérie et Marcello ont posé leur vaisseau spatial ce soir du côté de Radio Graphite pour nous parler de leur projet Pecora Pecora. Ils ont sorti leur quatrième opus intitulé Aquaplanet. Ils nous parleront de cela ainsi que des autres albums à leur actif. Nous saurons également comment est né ce projet, leur inspiration et influence, bref, toute l'histoire de ces astronautes moutons nostalgiques. Bonsoir Valérie, bonsoir Marcello, comment allez-vous ?
Bonsoir, ça va bien, merci.
Ça va bien, merci, bonsoir.
Bonsoir, bah merci d'avoir répondu à l'invitation de l'émission d'Ambient Memory. Écoutez, comme à l'habitude, je laisse un petit quelques mots aux invités pour se présenter. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter l'un et l'autre pour que les auditeurs puissent vous découvrir ou vous redécouvrir ?
Donc, moi, je suis Valérie Bilodeau. Donc, je fais partie du duo Pecora Pecora de Montréal au Québec. Et je vais laisser la parole à mon acolyte.
Oui, moi, je suis Marcello, l'autre moitié de Pecora Pecora. J'aime voyager.
J'ai cru comprendre, puisque vous êtes quand même des astronautes. Enfin, en tout cas, c'est votre identité du duo Pecora Pecora. Justement, avant de parler de votre duo, comment vous êtes arrivé à la musique ? Est-ce que vous avez commencé ensemble ou séparément ?
En fait, moi, on a commencé séparément. J'ai commencé assez jeune. 12-13 ans à explorer la musique de façon, non conventionnelle, puisque je savais pas comment jouer de la musique, en fait. J'utilisais des enregistreuses à ruban et des petits claviers, tout ça. Donc, j'expérimentais avec tout ça. C'est sûr que la forme changeait avec le temps et tout ça. Mais mon plaisir, c'était quand même d'explorer toujours. C'est un thème récurrent, peu importe la forme. Au départ, c'était beaucoup plus, noise et tout ça. J'ai essayé la musique. Je jouais quand même un peu plus tard avec des guitares dans des bands et tout ça. Je suis revenu à l'électronique un peu plus tard, dans la vingtaine. Puisque j'étais tout seul, donc c'était pratique pour moi d'essayer d'utiliser l'électronique pour...
Oui, plus de l'électronique et pas forcément des instruments, même si tu as fait un petit peu de guitare, c'est ce que tu nous disais. Donc c'est surtout des appareils et pas forcément des instruments qui t'ont un petit peu mis le pied à l'étrier dans la musique.
J'ai toujours aimé utiliser tout et n'importe quoi, que ce soit des instruments ou pas. Ça peut être à certaines époques comme des objets.
Donc, je voudrais faire une parenthèse. J'ai déjà vu Marcello au début de notre relation jouer sur scène avec des jouets, par exemple.
Ah oui, des instruments en jouets ou vraiment des jouets, des jouets d'enfants, d'accord.
Des jouets d'enfants qui ne sont pas faits pour faire de la musique à la base. Ouais.
D'accord, donc on était vraiment dans des choses un petit peu acoustiques avec des éléments, avec des jouets. Donc on n'est vraiment pas du tout dans des instruments conventionnels, même si tu faisais du clavier, de la guitare, mais pas de formation de solfège en tout cas, ou d'instruments, pour Marcello.
Pour moi, non.
D'accord. Et pour toi, Valérie, est-ce que c'est un peu pareil ou est-ce que tu es musicienne ?
Non, alors moi, j'ai vraiment pas le même parcours. Donc, c'est le parcours classique, là, le piano à partir de 7 ans, la formation de musique, même à l'université, là. Donc, moi, c'était vraiment la théorie, le solfège et tout ça, là. J'ai passé beaucoup de temps à faire ça jusqu'à début vingtaine. Et puis après, ben, j'ai eu une espèce de haut-le-cœur de tout ça. Et j'ai complètement arrêté parce que tu sais, je faisais de la musique classique, puis ça peut être assez compétitif et c'est pas fait pour tout le monde, disons, comme milieu. Donc j'ai vraiment arrêté de faire de la musique pendant peut-être 5-6 ans. Et puis là, je me suis mis à redécouvrir justement en rencontrant Marcello et en rencontrant tout son univers parce qu'il y avait beaucoup de gens autour de lui qui faisaient un peu la même chose. C'était de ne pas réfléchir à ce que tu faisais et d'y aller un peu avec ton émotion et tout ça. Mais maintenant, c'est que j'y repense, c'est oui, je réfléchissais pas, mais bon, j'avais quand même tout mon background qui était bien ancré en moi, là, donc ça se mélangeait, puis ça finissait par faire quelque chose de structuré. Mais c'est ça, je suis retournée à la musique par plaisir en faisant quelque chose de beaucoup plus spontané grâce à ma rencontre avec des musiciens qui n'étaient pas nécessairement formés là-dedans.
Et donc, vous avez commencé à faire des choses en duo, sans forcément que ce soit sous l'appellation Pecora-Pecora. Comment ça s'est passé du coup? Parce que chacun, en fait, avait un peu un parcours différent, un univers différent. Donc, comment s'est passée, en fait, cette fusion, si je peux dire, musicale?
Ouais, donc, dans le fond, on s'est rencontrés, puis comme Marcello était plutôt DJ à ce moment-là, où c'était beaucoup plus la musique faite par ordinateur avec des logiciels. Et là, on voulait faire de la musique ensemble, mais on ne trouvait pas nécessairement comment faire. Et on a commencé à acheter des claviers. Comme moi, je suis pianiste de formation, en fait. Puis, bon, ben, en fait, c'était un peu l'idéal parce que les claviers, il y a une partie où tu dois réfléchir à l'harmonie, aux notes et tout ça, mais il y a toute une partie programmation aussi. Oui. De continuer, Marcello.
Ouais, pour nous, ben, je pense que ça a été comme un point de rencontre parce que ben, comme utiliser le clavier comme comme un piano avec la mélodie, la construction, tout ça, et le doigté, puis ça. Puis moi, de mon côté, je pouvais plus comme sculpter le son et explorer plus comme plus dans mon univers. Donc c'était comme un point de rencontre qui nous permettait de se rejoindre.
Ouais, tout à fait.
Ouais.
Ouais.
D'accord, donc vous utilisez bien sûr des claviers, donc c'est plus ta partie Valérie, et est-ce que tu es un peu plus sur des sampleurs ou d'autres machines, Marcello en fait, c'est un peu ça vos rôles ou c'est pas du tout ça?
Ben, c'est sûr que Valérie est beaucoup plus versée dans les mélodies complexes et sait jouer. Vraiment, moi, je peux faire. Disons, je suis plus comme pour les lignes mélodiques de basse, mettons, disons, monophoniques, tout ça. C'est sûr qu'en général, il se peut que Valérie joue le synthétiseur, moi, je module, pendant que je module le synthétiseur. Donc, c'est comme on joue le même instrument en même temps. Donc, ça fait comme quatre mains, ou quatre mains valent mieux que deux.
Oui, c'est à peu près ça, voilà, un quatre mains, donc ça reste classique, mais ouais, quatre mains on vaut mieux que deux, oui, ça donne un autre relief en tout cas.
Ouais.
Donc, ouais, disons que ça reste comme une approche assez manuelle, donc il y a comme pas d'automation dans la modulation du synthétiseur, donc moi je fais comme l'automation, je remplace l'automation, mettons, la progression du son pendant que Valérie joue la mélodie.
Ouais, c'est comme, mettons, quand on faisait des spectacles, il n'y avait pas beaucoup de choses préenregistrées, là. C'était vraiment très, 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 très.
Ouais,
tout se fait en direct et.
Moi, c'était
Ouais.
spontané.
Ouais,
Ouais.
sans ordinateur, c'est quand même des synthétiseurs analogues où on préenregistrait rien, là.
Ouais, c'était une volonté de notre part de mettre l'ordinateur de côté. Ouais.
Voilà, garder un peu de synthétique, mais sans le côté informatique qui peut aussi bugger des fois. Bon, après, il y a peut-être des fois des aléas aussi avec les claviers, j'imagine.
C'est sûr.
Oui, ça faisait beaucoup de ça fait beaucoup de fils à brancher. Et il s'agit que quelque chose soit mal branché pour que. Oui.
Est-ce que vous avez des artistes qui vous inspirent? Parce que du coup, au fur et à mesure, vous êtes, vous faites vraiment du son cosmic music. Est-ce que vous avez des artistes qui vous inspirent ou vous êtes plutôt à ne rien écouter pour que vraiment votre inspiration soit là à 100%?
Non, on en écoute beaucoup. C'est sûr que c'est les grands classiques, là, tout ce qui est allemand des années 70. Moi, j'en écoute depuis 20 ans, puis j'y retourne. J'ai pas de... C'est vrai que ça revient toujours. Je reviens toujours à ça. Puis on en découvre toujours des gens qui ont fait ça aussi sur YouTube. Des gens qui ne sont pas connus, que ah ben écoute, il y a aussi ça. C'est comme un peu infini, je trouve. Et il y a aussi un courant de musique ambiante un peu qui est là en général, qui ne se faisait pas avant. Là, donc, on en écoute beaucoup quand même. Je peux vous nommer les artistes, quoi, Marcel?
Oui, mais c'est sûr que, ça n'a peut-être pas de surprise, mais pas les Klaus Schulze, c'est Tangerine Dream, c'est sûr, ont été un
groupe des années 70-80. Voilà, ouais, on est vraiment dans le classique. Donc effectivement, et de fil en aiguille, du coup le projet Pecora est né. Donc comment a germé cette idée justement? Comment est venue cette idée déjà de vous appeler Pecora, et puis de raconter toute cette histoire là qui gravite au niveau de l'espace, des vaisseaux spatiaux, des extraterrestres, un petit peu comment ça s'est fait? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire?
Je peux dire que, disons, peut-être aussi un point de départ de notre rencontre musicale a été comme un peu la trame sonore du Blade Runner original de 82.
Début des années 80, à peu près.
Si je me trompe d'année. Cette trame sonore m'a beaucoup inspiré quand même. Et mon origine italienne va sûrement influencé pour qu'on trouve un nom en italien pour faire le lien avec le mouton, les moutons qui... Valérie?
Désolé, on s'est pas entendu. Ouais, oui, en fait, avant les moutons, c'est qu'il y a une nouvelle qui est à la base de Blade Runner qui est... C'est quoi déjà le titre?
« Do Androids Dream of Electric Sheep? »
Voilà, et ça, on voulait s'appeler « Dreams of Electric Sheep », mais on a découvert qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait pensé à ça. Donc, on a gardé l'idée des moutons qu'on a traduit en italien pour faire honneur à l'origine italienne de Marcello. Et c'est pas mal ça, la base. Et on est deux amateurs de science-fiction, donc ça nous plaisait là, de créer un projet... avec cette thématique-là.
D'accord. Donc après, est né. Est-ce que vous avez déjà commencé par faire de la production, c'est-à-dire produire un premier album, ou vous faisiez des événements pour vous produire et vous faire connaître, que ce soit sur la scène locale ou une scène un petit peu plus étendue? Comment ça s'est passé justement les débuts de Pecora?
Je me rappelle très bien la sortie de notre premier album. C'était, on n'avait pas vraiment joué avant ou à peine. C'était vraiment, on sort l'album, on fait un spectacle, puis c'était assez simultané, je dirais. Puis on a fait quand même, c'est surtout là, les premières années, on a fait beaucoup de spectacles dans la région montréalaise.
Ottawa,
oui.
Québec.
Oui, un peu après.
Québec, en tout cas.
Ça, c'est une couple, quelques années après, là, mais oui, et en Ontario aussi.
Mais ça s'est fait quand même organiquement. On n'avait pas comme plan de match, on fait des spectacles et on fait des albums. C'était comme...
C'était un peu spontané en fonction de ce qui arrivait vers vous. Vous pouviez du coup vous produire sur des lives avant même effectivement de faire de la production. Enfin, que le premier album, le titre reprend en fait les titres des différents morceaux, Mouton, Droïde, Chant, Positronique, c'est bien ça, en 2010, c'était le premier album ou premier EP?
Ouais.
Alors du coup c'est pareil, donc vous étiez déjà un petit peu bien sûr dans l'histoire des moutons, donc de l'espace, de l'électronique, donc comment s'est articulé vraiment ces productions? Est-ce que vous aviez déjà une idée précise de cet album, comment il allait se faire ou pas du tout? C'est toujours pareil, de la spontanéité qui arrivait, et en fonction de ça, vous pouviez construire différents morceaux?
C'était vraiment une exploration de, mais qu'est-ce qu'on peut faire nous deux ensemble? C'était ça l'idée, c'était voir qu'est-ce qui allait sortir quand on fait de la musique, nous deux, par rapport à quand on fait de la musique ailleurs ou avec d'autres personnes. Ouais, je suis pas si
Ouais,
d'accord.
on n'avait pas d'idée préconçue exactement de ce qu'on voulait faire, mais on avait quand même une image, une couleur, une direction comme dans
Ouais.
notre tête, là. Mais ça venait quand même, ça vient quand même naturellement puisqu'on a quand même un goût similaire,
Ouais, c'est ça.
de,
Ouais.
ben, c'est
Est-ce...
sûr, il y a des différences, mais bon,
D'accord. Est-ce qu'il y avait
finalement.
un début d'histoire justement sur vos personnages de cosmonautes moutons ou pas du tout? Ça allait venir un petit peu après avec les autres albums?
Ouais, ça vient vraiment plus après. L'idée d'avoir une narration, ben, un narratif, là. Au début, on n'était pas du tout là-dedans.
Peut-être au deuxième EP, on a commencé à avoir une idée, un truc comme imagé ou de mettre un peu de comment dire, d'histoire là-dedans, comme
Oui.
un
Ouais.
petit peu
Ça
d'histoire.
commence à avoir l'idée du voyage et tout ça.
Ouais.
Ouais.
Oui, le voyage du quadrupède, donc en 2011. Donc là, c'est vraiment deux pièces, donc vraiment un EP qui commence vraiment à, entre guillemets, à articuler votre histoire spatiale, si je puis dire, justement avec Vent ironique et puis la valse Gogold, c'est bien ça.
Oui,
Donc du coup,
attention, c'est vent ionique.
comment?
C'est vent ionique.
Ah, ionique, j'ai noté
Oui,
ironique, ionique, tu vois,
c'est
c'est.
ça.
Voilà, c'est révélateur. Donc du coup, oui, on va dire, vous aviez commencé à planter le décor justement avec ce deuxième EP, avec ces deux pièces, ces deux titres. Après, ben, justement, est-ce que à chaque fois vous adaptez vos albums à des versions live pour vous produire dans différents événements? Parce que vous avez fait aussi pas mal d'événements. Dans les années 2010-2017, enfin, si on a un créneau, donc il y a Mutech, qui est assez connu comme
Ouais.
festival par chez vous, Under the Snow, Cinéma pour oreilles, j'ai dit peut-être pas dans le bon ordre, 2H, alors je ne sais pas si c'est 2 heures ou 2H, donc c'est vraiment des événements canadiens qui sont assez connus. Est-ce que bah, du coup, ça vous permettait d'avoir la version album, si je puis dire, puis après pouvoir faire des versions live?
Alors, selon moi, les versions live qu'on a fait ou qu'on fait, c'est sont semblables. Les versions, en fait, les versions albums sont pratiquement live, puisque tu sais, tout est joué. Mais ça arrive souvent que si on faisait une version live, ben, elle va différer un peu puisqu'on se laisse inspirer du moment. Mais disons que je pense que les deux, il n'y a pas une distinction nette entre le live et l'album quand même. Il reste que on peut dire ce qui est sur les albums, mais comme live.
Ça ressemble beaucoup, ouais.
D'accord,
Des
il n'y a
fois,
pas.
on faisait des impros pour lier les pièces ensemble, mettons. Ouais, mais c'est très, très ressemblant, ouais.
Voilà, c'est de lier vraiment des morceaux pour raconter une histoire, pour faire voyager bah, justement le public. Et du coup, bah, il n'y a pas ces histoires, parce que souvent, il y a des artistes qui font des lives, mais c'est-à-dire que les morceaux sont rallongés, voire raccourcis, ou mélangés avec d'autres morceaux. Vous, c'est vraiment toujours dans la spontanéité, morceau après morceau, ce qui fait que vous pouvez construire justement une histoire sonore avec vos différents titres, album et live.
Oui, ben surtout, c'est que là, ben, rendu à trois albums, on mélangeait aussi les pièces, là. On ne faisait pas nécessairement juste un album par spectacle. Donc, ça nous permettait de créer un narratif croisé, là, si on veut.
Thank you.
Il y a eu en 2015 donc le Satellite perdu, donc là un petit peu plus de morceaux, il y en a 7 je crois, donc c'est des pièces assez courtes par rapport justement aux deux autres albums où c'était des pièces un petit peu plus longues, et des morceaux qui font 1 minute, 2 minutes, 6 minutes pour certains, en tout cas pour l'album Le Satellite perdu. Est-ce que c'est justement un petit peu des parenthèses, des épilogues, des introductions, des conclusions, justement ces petits morceaux pour articuler les autres morceaux qui sont un petit peu plus longs?
Ouais, on voulait faire un peu comme une histoire avec des chapitres, et ces chapitres avaient comme des durées un peu plus ou moins longues ou plus courtes. On peut voir certaines pièces comme plus comme des liaisons entre deux chapitres aussi, mais on n'a pas quand même c'est pas comme ça, reste de la musique instrumentale, donc c'est pas comme coulé dans le béton, ça peut être interprété de plusieurs façons, malgré que nous on boit des moutons, mais on peut l'écouter sans boire de moutons.
Bien sûr. Et puis y a comme une histoire, enfin si on prend juste les titres des albums, donc Mouton, Droïde, Chant, Positronique, donc on est un petit peu dans le début. Après vous partez en expédition, donc le voyage du quadrupède. Après vous êtes un petit peu à la recherche d'un satellite perdu. Tout ça est lié. Enfin, en tout cas, c'est une continuité d'histoire justement par rapport à votre projet. Enfin, en tout cas, je le vois comme ça. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas.
Oui, ben oui, plus ça va, plus l'histoire se trame un peu naturellement. Donc effectivement, là, c'était quoi l'histoire de celui-là? C'était une escale sur une planète. C'est carrément juste comme, OK, on se promène, on arrive sur une planète. Et là, si on va à l'album d'après, c'est encore plus poussé comme narratif. Là. C'est comme, ça se développe de plus en plus.
Bah, y a l'album qui est sorti récemment, donc en 2024. Est-ce que, bah justement, vous êtes donné du temps, puisque de 2015 à 2024, alors je ne sais pas, vous avez peut-être produit des choses, ou il s'est passé des choses dans vos vies. Enfin, après, on ne va peut-être pas rentrer dans les détails, mais voilà, après, la vie est faite que bah, des fois, on met un petit peu la musique entre parenthèses, peut-être, ou on fait d'autres choses. Donc Aquaplanète, donc là ben, le vaisseau spatial est un petit peu à court de carburant, à court de laine fraîche, donc il faut se poser sur une planète qui s'appelle Aquaplanète, c'est bien ça?
Ouais, donc ben, pour la petite histoire, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu ben, des retours aux études de chacun de, notre, de chaque côté, et puis il y a eu la COVID, et puis et en réalité l'album a été enregistré, ça fait 6 ans. C'est juste qu'on n'a jamais eu le temps
de terminer,
de s'en occuper. Et puis là, ben, on trouvait ça un peu dommage de laisser ça dans nos disques durs. Là. Donc, on a décidé de faire en sorte que ça soit connu. Et voilà. Donc là, c'est vraiment plus... on s'est beaucoup amusé avec le narratif d'imaginer quelque chose qui est comme une interaction avec des...
les personnages de la planète.
Oui, c'est ça. Donc, c'est comme une coche de plus, comme on dit.
Très bien. Et du coup, ben, toujours cet aspect narratif, comme vous disiez tout à l'heure, avec les trois premiers albums. Donc là, on racontait l'histoire, ben, justement, qu'il y a un atterrissage sur l'aquaplanète, puisque du coup, le vaisseau manque de carburant. Donc, c'est un petit peu une expédition. Enfin, en tout cas, quand on voit les différents titres, à l'œil nu, une nébuleuse, une mer sans fond, sans fin, le vaisseau, les nerfs. Voilà, une heure, une minute, une seconde, donc on voit qu'il y a une progression, il y a une histoire, il y a une balade sur cette planète pour bah justement retrouver ce carburant tant convoité. Donc bah, c'est toujours pareil, c'est une continuité d'histoire, donc tout se lit, l'album 1, 2, 3, 4, c'est un petit peu comme des épisodes d'une série de dessins animés qu'on pouvait regarder dans les années 70-80, voilà, où il y avait un vaisseau spatial qui allait de planète en planète pour sauver les gens, ou en tout cas résoudre une histoire, quelle qu'elle soit. Est-ce que c'est un petit peu ce que vous recherchez, justement?
Oui, ben, on aimait beaucoup des choses comme La Planète Sauvage, tous ces films-là des années 70, ou Influence Mobius aussi. Puis on est aussi, au niveau du visuel, on est allé chercher une amie qui nous a fait des super beaux visuels pour les deux derniers albums, inspirés un peu de cette esthétique-là. Là. C'était quoi la question?
Non, il n'y a pas de souci, parce qu'elle était très longue, ma question. C'est un petit peu inspiré justement des dessins animés qu'on pouvait voir. Alors, moi, je pensais aussi à Albator, Sankukai, enfin, ce genre de choses où il y avait des vaisseaux. Alors, y avait, ce que je parle aussi, c'est souvent ils faisaient un petit peu la guerre, il y avait des batailles, mais en tout cas, ils essayaient toujours de sauver des gens, de vaincre le mal et que le bien triomphe toujours. C'est un petit peu ça la règle de ces dessins animés. Donc vous, c'est pareil, c'est un peu une expédition pour explorer, pour faire découvrir, justement de différents univers, différentes planètes en tout cas, pour l'histoire d'Aquaplanète. Je pense qu'on est un peu dans les thématiques des dessins animés des années 70-80. En gros, c'est ça.
Oui, on ne peut pas me cacher que ça vient directement de là. Ouais.
Donc voilà, tout est lié. Entre la Cosmic Music et puis les séries des années 70-80. Du coup, aussi, ben, les albums donc, sont auto-produits, donc vous ne cherchez pas à vous produire sur un label quel qu'il soit. C'est voilà, un petit peu au fil de l'eau, comme on dit. Ben, vous verrez ce qui peut arriver en fonction des albums, ou c'est voilà, ce qu'il y a une recherche quand même de produire sur un label quel qu'il soit, vos albums.
Ben, pas nécessairement. Si ça arrive, tant mieux. Comme ça reste quand même un projet qu'on fait à côté de nos vies professionnelles, ça doit demeurer gérable comme dans le temps et dans notre quotidien. Donc, on aime bien comme pouvoir contrôler c'est quoi le temps qu'on met pour ça. Là. Donc, le label, je sais pas. Je sais pas si on pourrait s'investir autant si on avait de la façon dont on le fait maintenant, si on avait un label. C'est un peu c'est incertain, disons.
Donc,
on aime bien contrôler notre projet, ouais.
Bien sûr, vous serez peut-être pris un peu par le temps, puisque du coup, vous auriez peut-être des délais à respecter, que là, bah, c'est un petit peu bah, quand vous avez le temps, parce que vous avez une vie professionnelle aussi, à côté, ouais, donc voilà, il n'y a pas de pression.
le voyage, pardon.
Non, non, il n'y a pas de souci, pardon.
Oui, le voyage intergalactique prend du temps, donc c'est parfois, c'est dur de respecter des délais sur la Terre. Hein.
Voilà, des vitesses lumière et tout ça, donc après, si vous voulez aller moins vite, c'est mieux.
Oui.
Alors après, justement, où est-ce qu'on peut trouver vos différents albums? J'imagine que vous êtes peut-être sur des plateformes d'écoute, des plateformes de vente, et surtout, quels sont-ils?
Oui, donc il y a un seul endroit, c'est Bandcamp. Tous nos albums sont là. Donc, pecorapecora.bandcamp.com. Et puis, à l'origine, il y avait quelques copies physiques, là, mais tout a été vendu.
Ouais.
Et puis pour le dernier, on a décidé que faire que du numérique.
Oui, justement, j'allais y venir. Est-ce que vous pensiez à faire du physique? Mais bon, ça sera que numérique. Mais pas de cassette, pas de CD et encore moins de vinyle.
Pas pour celui-là, on verra, mais c'est ça. Parce qu'on faisait vraiment tout à, comme on dit au Québec, à la mitaine, non? On faisait les albums. C'est nous qui faisions tout l'emballage et tout ça, là. Donc là,
oui.
On a décidé de ne pas faire ça cette fois-ci.
C'est du fait main, c'est pas...
Voilà.
C'est comme ça reste vraiment original. Chaque album a son originalité, puisque c'est fait maison, c'est fait main.
Ouais.
Est-ce que vous avez d'autres projets pour 2025? Alors c'est vrai que l'album Aquaplanet est sorti il y a quelques semaines, mais est-ce que vous avez déjà une idée pour d'autres choses, albums ou autres, hein, ou des événements que vous aimeriez faire peut-être?
Pour l'instant, on s'en tient à essayer de faire connaître l'album. Petit à petit, j'essaie de l'envoyer à des blogs un peu à travers le monde, comme c'est de la musique instrumentale, ça peut... Il n'y a pas de langue, il n'y a pas de barrière de langue. Là. C'est ça. Donc, j'envoie ça autant aux États-Unis qu'en France, qu'à n'importe quel blog que je vois qui parle de musique ambiante. Là. C'est surtout ça le plan. Ouais.
Ben, c'est sûr qu'on a aussi quelques idées pour faire une suite. Là, comme on a pensé à un esprit de. Ben, encore une suite. En tout cas, on en parle en tout cas pour. Faire des nouveaux morceaux, peut-être un peu plus comme. On a parlé des trucs plus courts et modulaires, comme plus des vignettes, mais en tout cas, on n'est pas encore arrêté sur une forme quelconque.
Ce qu'on veut, c'est faire des. On en a discuté, c'est plus des petites pièces courtes, un peu inspirées de tout ce qui est musique de documentaire scientifique. Là. Donc, quelque chose de plus, peut-être même un peu plus humoristique à la rigueur, là. Ouais. Pas humoristique drôle, mais ça fait un peu pastiche quand même, là.
Oui.
C'est une idée en développement, ouais.
D'accord, bon, on restera de toute façon à l'affût. Vous êtes peut-être aussi sur les réseaux sociaux, est-ce que vous êtes sur Facebook, Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux?
Ouais, pour le moment, on est sur Facebook. Instagram, oui, mais c'est plutôt Facebook... où je mets les nouveautés. Ouais.
Oui, j'ai vu ça, que vous aviez du coup un Facebook. Donc justement, on restera informé de tous vos événements et des sorties en se connectant justement sur votre profil Facebook Pecora, c'est bien ça. Et puis du coup, si on veut se procurer vos différents albums, se connecter sur Bandcamp. Vous êtes peut-être aussi sur des plateformes d'écoute, peut-être, que ce soit PodCloud ou d'autres plateformes ou pas du tout?
Non, on a vraiment fait le choix d'être que sur Bandcamp.
D'accord, ok. C'est très bien comme ça. Ça permet aussi de découvrir vos albums, de se les procurer, sachant que pour un achat d'album sur Bandcamp, c'est bien la majorité de la somme vous revient. Bandcamp se sert, mais assez minime. Donc c'est un site qui est quand même assez intéressant, enfin, en tout cas pour les artistes et pour la rémunération s'il y a.
Oui, c'est ça, d'où notre choix.
Tout à fait. Bien. On reste en tout cas à l'affût de des différents événements. Donc je rappelle que votre dernier album Aquaplanet est sorti. Donc vous se le procurer justement sur Bandcamp. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aussi vous connecter sur le Facebook de Pecora pour avoir toutes les informations, les albums et puis d'autres news concernant justement le duo. je voulais vous remercier, en tout cas, pour cette interview, Valérie et Marcello.
Merci à vous.
Oui, grand merci.
Eh bien, en tout cas, on reste à l'affût des informations sur les différentes plateformes Bandcamp et Facebook de tous les événements. Et puis, n'hésitez pas justement à aller écouter et vous procurer l'album Aquaplanète. Donc, les autres albums aussi, Mouton, Droïde, Chant, Positronique, ainsi que Le Voyage du Quadrupède et Le Satellite Perdu, est également disponible sur Bandcamp. Donc, si vous voulez vous procurer ces quatre albums, n'hésitez pas à vous connecter sur Bandcamp. Merci encore à tous les deux. Et puis, je vous dis à très bientôt. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler pour que vous puissiez nous parler de vos nouveautés, en tout cas, et de l'évolution encore du duo Pecora-Pecora.
Merci de nous avoir contactés.
Merci à vous d'avoir répondu favorablement. Et à très bientôt.
Bonne
journée à vous, parce que je crois qu'il est, il doit être 16h. Chez nous, il est 22h, presque 23h. Donc, il doit être 17h. Chez vous, je crois qu'il y a à peu près 6h de décalage, si je ne dis pas de bêtises. Je vous dis bonne fin de journée et puis bon, à très bientôt.
Merci.
À bientôt.
émission se termine, j'espère que vous avez apprécié. Si vous souhaitez découvrir plus en détail les différents albums de Pecora Pecora, n'hésitez pas à faire un tour sur leur profil Bandcamp. Vous trouverez également beaucoup d'informations sur leur Facebook. Vous avez pu écouter durant l'interview quelques morceaux de leurs différents albums. Mouton, de l'album Mouton d'Oroïd Chant Positronique. Vent Ionique, de l'album Le Voyage du Quadrupède. Le Satellite Perdu, extrait de l'album du même nom. Et 100 milliards d'étoiles, extrait de l'album Aquaplanète. Retrouvez dès demain le podcast de l'émission sur vos plateformes d'écoute habituelles et toutes les infos sur le profil Instagram et Facebook d'Ambient Memory. Je vous donne rendez-vous, quant à moi, la semaine prochaine pour un nouveau voyage. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous.